Eh bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 4. Nous allons voir la fin de ce chapitre, mais nous allons lire à partir du verset 13 pour nous remettre un peu dans le contexte. Et nous nous concentrerons sur les versets 18 à 25. Mais lisons donc Romains chapitre 4, à partir du verset 13. Et l'apôtre Paul donc écrit ceci. « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est annulée, car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi, père, d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité ». Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous avons déjà vu donc dans notre série que Paul a souligné que puisque nous sommes pécheurs par nature, puisque nous ne pouvons rien contribuer à notre salut, nous avons besoin d'une œuvre de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ vient, pour faire la propitiation de nos péchés, pour payer le prix de notre rédemption, de notre rachat, pour faire notre justification. Et Paul n'a cessé de souligner que cela vient sans condition. C'est par grâce. Il n'y a pas de condition si ce n'est celle que nous avons besoin de ce salut. Et même, Paul a souligné que même si l'Ancien Testament dirige les regards et attend le jour de la révélation de l'Évangile, ce salut vient entièrement à part, entièrement en dehors de la loi. Et nous avons vu qu'en disant cela, Paul a soulevé des questions qu'il a sans doute lui-même, qu'il s'est sans doute lui-même posées avant de devenir chrétien. Et à la fin du chapitre 3, nous avons dit qu'il a posé plusieurs questions. En disant cela, Paul, tu n'es pas en train d'enlever tous les privilèges que le juif a de se glorifier en tant que juif, en tant que celui que Dieu a, faisant partie de la nation que Dieu avait choisie. Paul, tu n'enlèves pas le rôle de la loi? Qu'en est-il de la circoncision? Est-ce que tu n'annules pas la loi de Moïse? Comment est-ce que tu peux dire ces choses? Et on a vu comment Paul, dans ce chapitre 4, nous a amené la personne d'Abraham, dans la discussion, dans le débat. Et on peut imaginer les Juifs auxquels, en particulier les Juifs auxquels Paul s'adresse, se dire bah, « Maintenant que nous allons parler d'Abraham, nous allons pouvoir clore le débat. » Et Paul s'appuie sur l'Écriture, vous vous rappelez de cette question qu'il pose, ce réflexe qu'il dit au verset 3 du chapitre 4, « Que dit l'Écriture ?» Il s'appuie sur la révélation de Dieu et il démontre que Abraham, contrairement à ce que les Juifs croyaient, Abraham a été justifié par la foi et non pas par les œuvres. Il a été justifié par grâce et non pas par son obéissance à la loi qui est venue bien des siècles plus tard. Il a été justifié par la justification de Dieu et pas par la circoncision. Si Abraham doit être le père des croyants, alors nous devons écouter comment Abraham est décrit, un pécheur qui a été sauvé entièrement par la grâce de Dieu. Cette grâce qu'Abraham a saisie par la foi, par laquelle il est justifié. Mais à la fin du chapitre 3, il y a une dernière question que Paul a soulevée. Et cette question, il va y répondre maintenant à la fin du chapitre 4. Cette question, c'est Paul, si tu dis ce genre de choses, tu annules la loi par la foi. Et on a déjà vu au chapitre 3, verset 8, par exemple, que Paul était accusé de prêcher l'évangile de la grâce gratuite. Et les accusateurs disaient que si des personnes croient dans cet évangile, qu'ils vont tourner le dos à la loi. Ils vont vivre une vie de débauche, ils vont désobéir à la volonté de Dieu, ils vont vivre en fait comme ils le voudraient. Et c'est la même accusation qui a été faite aux réformateurs protestants. Vous dites que des personnes peuvent être justifiées par la grâce gratuite de Dieu, alors les gens vont vivre n'importe comment. Paul va revenir sur cette question un peu plus tard dans cette lettre. Et il va dire, mais si vous tenez ce langage, si vous dites ce genre de choses, vous n'avez même pas commencé à comprendre comment la grâce de Dieu qui sauve fonctionne. Mais ici, il dit que si vous croyez que la foi annule la loi de Dieu et mène à une vie d'indifférence à l'égard de la volonté de Dieu pour une vie de sainteté, alors vous n'avez pas compris comment la foi fonctionne. Et donc, il est intéressant de voir comment Paul répond à cette question qu'il pose au verset 31 du chapitre 3. Annulons-nous donc la loi par cette foi qui sauve? Et dans le passage que nous voulons considérer ce matin, donc à partir du verset 18 du chapitre 4, après avoir donné des illustrations de la vie d'Abraham et en s'appuyant sur l'Écriture, Paul donc répond à cette dernière question. Est-ce que cette foi qui sauve signifie que nous pouvons vivre n'importe comment en pensant être sauvés? Et Paul répond, loin de là. Pas cette foi. Pas cette foi qui sauve. La foi qui nous apporte la justification, la foi qu'avait Abraham, cette foi est opposée à ceux qui disent « Je crois en la grâce de Dieu, mais je vais donc vivre pour moi-même et pour mon plaisir personnel. » En fait, Paul veut nous dire ici que si vous voulez voir la loi de Dieu, le dessein de Dieu accompli dans votre vie, le meilleur moyen est de le voir, c'est par la foi qui justifie. C'est par la foi qui sauve. Et dans ce passage, nous voulons soulever plusieurs choses que Paul dit au sujet de la foi, où certaines traductions disent, et elles ont peut-être raison, qu'on peut dire même cette foi, cette fois-ci, cette foi qui justifie, cette foi qui sauve. Paul ne parle pas ici de n'importe quelle foi. Il ne dit pas « définissez vous-même ce qu'est la foi ». Non, il nous parle de la foi qui nous apporte la justification, cette foi qui sauve. Nous voyons cette foi chez Abraham. Donc nous allons examiner ce que ce passage nous dit au sujet de cette foi. Et il y a trois choses à souligner dans ce verset. La première chose, c'est que cette foi tire son caractère de l'objet de la foi. Cette foi qui justifie tire son caractère de l'objet de cette foi. C'est-à-dire que la nature de cette foi ne dépend pas de la personne qui exerce la foi, mais de l'objet dans lequel cette foi se repose. Paul ne dit pas que la foi dépend des. Paul dit que la foi ne dépend pas des circonstances. Verset 19. Sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La foi d'Abraham ne dépend pas des circonstances. Abraham était presque centenaire. Sarah avait été stérile durant toute leur vie de couple. Si la foi d'Abraham dépendait des circonstances, alors que Dieu l'appelait à lui faire confiance au milieu de ces circonstances, la foi d'Abraham aurait disparu, elle se serait évanouie. Mais la foi d'Abraham ne dépend pas des circonstances. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois on entend des personnes dire... répondre à quelqu'un, ben, vu les circonstances, je vais bien. Un chrétien ne devrait jamais dire ça. Si Abraham avait entendu, ou si en entendant Dieu lui dire, Abraham, je vais te faire devenir le père d'une multitude de nations, et qu'Abraham avait répondu, mais vu les circonstances, ça va être difficile. On imagine que le ciel se serait ouvert, que Dieu lui aurait dit, mais Abraham, le but de la foi, c'est qu'elle ne se focalise jamais sur les circonstances. La foi se focalise sur autre chose. Elle se focalise sur la personne et la promesse de Dieu. C'est pourquoi cette foi qui ne se focalise pas sur les circonstances, cette foi n'est jamais intimidé par les obstacles. Voilà un homme de près de 100 ans. Sa femme est presque aussi âgée que lui. Et Dieu dit que Sarah va avoir un enfant. Et si vous vous rappelez du récit en Genèse, Sarah pense que l'idée est tellement ridicule qu'elle ne peut pas s'arrêter de rire. Elle éclate en rire. Vous vous rappelez que les visiteurs célestes qui étaient là ont dit à Sarah, mais tu riais. Non, je ne riais pas. Si, tu riais dans ton incrédulité, parce que toute cette idée est ridicule, parce que pour toi, les obstacles sont insurmontables. Mais Paul dit ici que la foi qui justifie, la foi qui sauve, ne se focalise pas sur les circonstances. Elle ne s'arrête pas sur les obstacles. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'en disant ces deux choses-là, ça peut aller très mal si on s'arrête là. La foi n'est pas seulement une question de ne pas se focaliser sur les circonstances, ni de ne pas être intimidé par les obstacles. Mais la foi est toujours focalisée uniquement sur ce que Dieu a promis d'accomplir. Avoir la foi, ce n'est pas... inventer quelque chose à partir de mon imagination. Avoir une grande foi, ce n'est pas avoir de grandes capacités d'imagination qui imagine ce que Dieu pourrait faire. Non, la foi, elle est comme un aimant. Elle est attirée exclusivement vers les promesses que Dieu a données à son peuple. Et c'est de ces promesses accomplies en Jésus-Christ. C'est quand la foi se focalise sur les promesses de Dieu que la foi prend son caractère, tire son caractère de l'objet. On entend certaines personnes qui nous disent qu'elles ont une grande foi, qu'elles croient que Dieu va faire ceci ou accomplir cela. La chose à dire, ou la chose à dire concernant ces personnes, c'est oubliez-les. À moins que Dieu n'ait donné une promesse dans sa parole. La foi repose dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu. La foi ne repose pas sur mon imagination au sujet de Dieu ou de ce que Dieu pourrait faire. La foi repose exclusivement sur ce que Dieu dit au sujet de lui-même et de ce que lui va faire. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître sa parole. C'est pour ça que nous avons besoin de lire, d'étudier sa parole. Si quelqu'un nous dit « J'ai une grande foi au sujet de ce que Dieu va accomplir », il faut lui répondre, mais est-ce que vous connaissez la Bible? Est-ce que vous connaissez votre Bible? Parce que c'est là, où Dieu dit ce qu'il va faire et ce qu'il a déjà fait. Dieu n'est pas la victime de notre imagination. Non, il a révélé qui il est et ce qu'il va accomplir. L'illustration de cela, nous l'avons dans la vie d'Abraham. Tout ce qui était promis à Abraham est à l'opposé de sa meilleure imagination. Abraham ne se couchait pas à l'âge de 100 ans en rêvant de ce qui se passerait si Sarah avait un enfant. Ce serait peut-être un cauchemar pour lui. Non, la foi d'Abraham tire son caractère de l'objet sur lequel elle se focalise. Et la leçon ici, pour nous, c'est que la foi la plus faible peut s'agripper à la promesse la plus solide. Le croyant le plus faible entrera dans le même ciel que le croyant le plus fort. Il a le même Christ, parce que c'est par la foi qu'il justifie en Jésus-Christ. La foi n'est pas quelque chose que l'on détermine soi-même. Certaines personnes nous disent « ça va aller parce que j'ai une foi solide ». En fait, elles veulent dire « j'ai une grande opinion de moi-même et je vais y arriver ». Une foi solide tire son caractère de la force des promesses de Dieu, de la puissance de ses promesses. C'est pour ça que Abraham, ce païen, n'oublions pas, ce païen se saisit de cette étonnante promesse de Dieu, tu seras le père de beaucoup de nations, et à travers ta postérité, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, les nations entières, les nations de ce monde seront bénies. Abraham était païen quand Dieu l'a appelé. Il n'avait pas les 11 premiers chapitres de notre Bible. Il suit les événements de la tour de Babel. Il était païen. Mais Dieu, dans sa grâce, intervient dans sa vie, lui donne cette étonnante promesse et Abraham crut. Et il fut justifié. Parce que cette foi regarde à Dieu, cette foi ne nous détourne pas d'une vie de sainteté. Non, elle nous amène dans cette merveille d'une vie de sainteté, parce que la foi qui justifie tire son caractère de l'objet de cette foi, c'est-à-dire la personne et les promesses de Dieu. Cette foi qui sauve, cette foi qui justifie, ne se focalise jamais sur elle-même, mais toujours sur Dieu et sur ses promesses, sur sa parole. La foi tire son caractère de l'objet. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que la foi se fortifie en se focalisant sur la gloire de Dieu. La foi se fortifie en se focalisant sur la gloire de Dieu. On a ici une des merveilleuses descriptions au sujet d'Abraham, versets 20 et 21. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il est important de saisir ici que la foi n'est pas une chose que Dieu nous donne. Ce n'est pas une substance que Dieu vient ajouter à notre vie, il nous donne une petite foi et c'est à nous de la faire grandir. Non. La foi, en fait, c'est la transformation de tout notre être, de toute ma personne, qui fait que j'ai maintenant cette disposition de faire confiance, une confiance totale dans le Seigneur Jésus. Nous sommes par nature des créatures très complexes, très compliquées. Et plus on avance dans la vie chrétienne, plus on réalise combien nous sommes compliqués. Et combien Dieu œuvre en nous pour que nous soyons simples. Et c'est un fruit, un signe de la croissance dans la vie chrétienne. La personne, elle devient plus simple. Nous sommes compliqués. Et dans notre nature, on pense à toutes sortes de manières de grandir plus fort dans la foi. Mais la réalité, c'est le seul moyen de grandir dans la foi, c'est de regarder au Seigneur Jésus-Christ, de regarder à Dieu, de se donner à lui et de vivre pour sa gloire. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se passe dans la vie d'Abraham. La foi d'Abraham devint plus forte quand il donna gloire à Dieu, verset 20. Abraham a laissé Dieu être Dieu. Il est cru que Dieu est capable d'accomplir ses promesses et il a donné gloire à Dieu. Et par cela, sa foi est fortifiée. La Bible parle souvent de petite foi ou de peu de foi. Rappelez-vous par exemple la circonstance où le Seigneur Jésus reprend ses disciples lors de la tempête sur la mer de Galilée. Nous lisons Matthieu 8, verset 26. Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Pourquoi avait-il peu de foi ? Parce qu'ils regardaient la tempête. Ils regardaient aux circonstances. Ils avaient oublié que le Maître, le Créateur, était au milieu d'eux, dans la barque. Ils regardaient aux circonstances. Ils regardaient à eux-mêmes. Leurs yeux n'étaient plus fixés sur la glorieuse personne qui était au milieu d'eux, sur le Seigneur Jésus-Christ. Et inversement, toujours en Matthieu chapitre 8, Jésus dit au sujet du centenier, je vous le dis en vérité, Matthieu 8 verset 10, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ça ne veut pas dire que le centenier avait une grande connaissance, mais le peu qu'il savait le poussait à se focaliser sur le Seigneur Jésus-Christ, et non pas sur ses circonstances. Et quand on lit la vie d'Abraham, on voit que Abraham a eu des manquements. Abraham a chuté. Abraham, rappelez-vous encore une fois, était païen à l'origine. Il est dans sa vie, il a souvent retombé dans ses travers. Mais quand il fixait les regards sur Dieu, sur sa promesse et sur sa gloire, sa foi se fortifiait. C'est pour ça que un homme, une femme, un jeune, une personne âgée qui possède cette foi qui sauve, qui possède cette foi qui est justifiée, au lieu de rejeter ce que Dieu a voulu que nous accomplissions dans sa loi, nous commençons à le faire. Nous commençons à le vivre. Le but de la loi est que nous vivions pour la gloire de Dieu, mais c'est impossible par nous-mêmes. C'est impossible par nous-mêmes. Mais quand Dieu nous donne la foi, cette foi qui est vivante, que nous regardons à la gloire de Dieu, à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, alors ce que le Seigneur nous a ordonné de faire, mais que nous ne pouvions pas faire parce que nous étions sans foi, l'Esprit Saint qui est en nous nous rend capables de le faire. On ne cherche pas à gagner notre salut en essayant de gravir l'échelle des 10 commandements, comme certaines personnes. C'est intéressant, en parlant d'échelle de 10 commandements, on peut se demander si le 10e commandement n'est pas là justement pour ceux qui essayent de gravir cette échelle des 10 commandements. Vous vous rappelez le 10e commandement ? Tu ne commettras point. Je ne sais pas si les jeunes se rappellent de ce jeu des échelles et des serpents. on jouait, quand on était dans une case, il y avait une échelle, on grimpait. Par contre, quand on était dans une case où il y avait un serpent, hop, on dégringolait. Et c'était frustrant, on arrivait pratiquement au bout et on dégringolait, et il fallait tout recommencer. Je me demande si le 10e commandement n'est pas comme ce serpent qui nous fait tomber encore et encore. C'est le témoignage de Paul en Romains chapitre 7. On y viendra à un moment. Mais Paul dit ceci, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point. À cause de cela, il parle de ce conflit dans son cœur. Mais la chose glorieuse au sujet de cette foi qui se focalise sur tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il promet de faire, et en particulier ce qu'il a fait en Jésus-Christ, c'est qu'elle nous pousse à dire, Seigneur, alors que je me confie en toi, mon plus grand désir est de te rendre gloire. Nos pères spirituels avaient compris cela. La première question du petit catéchisme de Westminster, par exemple, pose la question, quel est le but principal de la vie de l'homme? Et la réponse donnée, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. C'est sans doute une question que nous devrions nous poser à chaque instant. En particulier quand il y a des décisions à prendre, est-ce que cela va rendre gloire à Dieu? Si on se pose cette question, cela nous éviterait bien des difficultés, cela nous empêcherait aussi de faire beaucoup de bêtises. Est-ce que cela va glorifier Dieu? La foi est attirée par la gloire de Dieu. Et cette foi ne pourrait donc jamais se retourner contre Dieu et lui dire qu'elle n'est pas concernée par la vie qu'il veut que nous vivions. La foi se fortifie en se focalisant sur la gloire de Dieu. La troisième chose que l'on peut dire de ce passage, c'est que la foi a un modèle, Abraham, mais que cette foi a un petit peu changé. La foi a un modèle, Abraham, mais que cette foi a un petit peu changé. Versets 22 à 25. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Paul nous dit qu'Abraham est un modèle pour nous. Cela, ce n'est pas à cause de lui seul que cela a été écrit, mais c'est aussi à cause de nous. Mais quelque chose a changé. Ça, on dit que la foi tire son caractère de l'objet de cette foi. La foi d'Abraham a tiré son caractère de la promesse de la venue du Sauveur, de cette postérité qui était promise, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que la foi se fortifie en se focalisant sur la gloire de Dieu. Abraham a eu un aperçu de la gloire de Dieu. Mais notre foi, maintenant, repose sur le Seigneur Jésus-Christ. Elle tire son caractère de qui est Jésus, de ce qu'il a fait. Elle se fortifie quand nous vivons de plus en plus pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu. Au temps d'Abraham, il était promis. Nous, aujourd'hui, nous regardons et nous voyons que Christ est venu. La foi d'Abraham l'a conduite vers une vie de piété. Paul dit, nous avons dépassé ce stade. Dieu nous a révélé le lieu où notre foi doit reposer. Notre foi ne repose pas simplement dans les promesses de Dieu, mais elle repose dans les promesses qui sont accomplies en Jésus-Christ, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, verset 25. Christ est venu, la postérité d'Abraham est venue. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, et c'est l'Évangile. ne peut pas le résumer de façon plus courte. Notre foi est en Christ qui a été livré. C'est un langage judiciaire, on va revenir sur les termes utilisés au chapitre 5. C'est un langage judiciaire, un langage du tribunal, mais on trouve ce langage, par exemple, dans les évangiles au sujet des événements qui ont conduit, qui ont amené à la crucifixion. Judas a livré le Seigneur Jésus-Christ au sacrificateur. Les sacrificateurs ont livré le Seigneur à Hérode. Hérode l'a livré à Pilate. Pilate l'a livré à la mort. Mais ce langage est aussi le langage d'Ésaïe 53. Le Père a livré le Fils pour nos offenses. Et notre foi repose sur ces choses. C'est une chose extraordinaire de voir un homme de 100 ans qui repose sa foi sur la promesse de Dieu de lui donner un fils, de lui donner une descendance, de lui donner une postérité dans laquelle viendra le Seigneur Jésus-Christ. Mais cela n'est rien comparé au fait de se reposer sur l'accomplissement de cette promesse. Quand la postérité d'Abraham se révèle dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et Dieu le Père a fait ce qu'il a empêché Abraham de faire, nous l'avons vu sur le mont Morija. Abraham allait livrer son fils Isaac. Dieu l'a empêché Abraham de sacrifier son fils parce qu'il attendait le jour de l'accomplissement de sa propre promesse. Quand lui, Dieu le Père, allait livrer son propre fils sur la croix de Golgotha. Ésaïe 53, verset 11, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Dieu lui a fait porter les péchés de tous ceux qui croient en lui. Il a été livré. Bien entendu, ça ne s'arrête pas là. Paul dit aussi que Jésus-Christ a été ressuscité pour notre justification. Qu'est-ce que cela veut dire? Une partie de la réponse, c'est que si Jésus était resté mort, on n'aurait jamais su qu'il était possible d'être justifié par la foi en lui. On n'aurait jamais su que son sacrifice avait été accepté. Dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, le peuple ne savait pas que le sacrifice d'expiation avait été accepté par Dieu tant que le souverain sacrificateur ne ressortait pas devant eux. Il venait et rassurait le peuple. Il ressortait du lieu très saint et se présentait devant le peuple pour le dire, voilà, le sacrifice a été accepté. Pour montrer qu'il n'avait pas été frappé par Dieu et que Dieu refusait son sacrifice. Jésus apparaît donc, il est ressuscité avec puissance pour nous rassurer que son sacrifice a été accepté. Son sacrifice a été accepté par Dieu le Père. Il a pris notre culpabilité, il a pris nos péchés, il a subi la condamnation, il a accompli l'œuvre. Le Père accepte ce sacrifice. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Mais il y a plus que cela. Il a été livré pour nos offenses et pour nous apporter le pardon. Mais le pardon seul nous ramènerait au jardin d'Éden. Et ce n'est pas suffisant parce qu'on commettrait exactement les mêmes péchés qu'Adam et Ève. Le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous par sa vie, par sa mort et par sa résurrection, non seulement le pardon, mais notre justification. Nous ne sommes pas seulement déclarés non coupables devant Dieu, mais nous sommes considérés justes aux yeux de Dieu. Est-ce que nous annulons la loi? Loin de là. Loin de loi. Nous vivons pour la gloire de Dieu. Et Paul dira plus tard dans cette même lettre, au chapitre 8, les versets 3 et 4, « Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi, c'est-à-dire les exigences de la loi, soient accomplies en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà la foi qui justifie. Voilà la foi qui sauve. Quand l'Esprit Saint nous rend capables de croire dans le Seigneur Jésus-Christ qui a été mis à mort pour nos offenses, qui a été ressuscité pour notre justification, nous vivrons d'une manière qui est agréable. Pas parfaite, du moins pas encore. Mais nous vivrons pour sa gloire, tout comme notre Père Abraham. Et tout cela n'était qu'une parenthèse. Paul aurait pu aller de la fin du chapitre 3 au début du chapitre 5. Mais il a pris le temps de développer ces questions qu'il a posées au chapitre 3 pour notre bien. Et la prochaine fois, Dieu voulant, nous allons aborder des choses encore plus excitantes au sujet de l'Évangile. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen. Je dirais simplement pour une annonce, si quelqu'un veut approfondir la foi dans la vie d'Abraham, il y a ce livre avec confiance vers l'inconnu. La foi dans la vie d'Abraham, chez Europresse. Vaut le coup de lire.